Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai écrit plus d'un millier d'articles sur le sujet de la musculation, sur comment progresser, aussi bien à l'entraînement que sur l'alimentation. Mais également fait des milliers de vidéos sur ma chaîne YouTube qui est à mon nom et fait sans doute presque un millier de podcasts depuis 2010 que je continue à animer aujourd'hui sur le Super Physique Podcast qui sort tous les vendredis à 10h30 avec plusieurs invités réguliers. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que je fais, plutôt que de m'étendre longuement dessus, je vous invite donc à aller voir mon site superphysique.org. Également aller voir mon site personnel rudycoya.com sur lequel j'ai fini récemment un article dont je vous avais parlé sur l'autorégulation en musculation. C'est un site où j'écris vraiment des articles références, où je prends mon temps pour les écrire, où j'essaye vraiment d'apporter quelque chose, étant donné que tout le monde peut écrire tout et n'importe quoi. J'essaye de ne pas écrire n'importe quoi et de faire au mieux. Vous retrouverez également sur son site mes services de coaching à distance. J'étais le tout premier à en proposer en 2006 et je continue à coacher, ainsi que des livres et formations. J'insiste sur les livres, c'est toujours d'actualité puisque je les poste une fois par semaine de manière dédicacée. À savoir le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la sèche naturelle, en fonction de votre objectif, et également mes livres en rapport avec LeaderCast, The Leader Project, sur comment vivre de sa passion, qui est, à mon avis, mon meilleur livre, et enfin, mon dernier livre, The Life, sur comment vivre une bonne vie, qui est plutôt un livre centré autour de mes valeurs, de ce que je pense avoir compris de la vie, et que je vous partage. Si vous êtes un adepte de mes podcasts, je vous invite à le lire, sinon, ne l'achetez pas, ça risque de vous confronter un petit peu. Et si vous n'êtes pas prêt, ça va peut-être toucher un peu trop votre ego. Bref, et donc dans ces podcasts, depuis maintenant un peu plus de 7 ans, je vous partage mes réflexions personnelles à partir des discussions que je peux avoir, des documentaires que je regarde, des podcasts que j'écoute. Car si vous ne le savez pas, une grosse partie de mon travail, en plus de coacher, d'écrire des articles, de former les futurs coachs sportifs en BPJEPS et en CQP, d'animer, on va dire ça entre guillemets rapidement, ma salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym. D'ailleurs, je ne le dis pas souvent, mais vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage. N'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accueillir à la salle si je suis dans ces disponibilités-là. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. Et bref, et donc, ce que je voulais dire, puisque je perds mes mots, c'est qu'une grosse partie de mon travail, en fait, c'est de nourrir ma curiosité, de trouver des réponses à mes questions. Et pour ce faire, eh ben, je suis toujours en recherche de contenus intéressants, que ce soit des podcasts, des documentaires, des articles. Ceci, afin de préciser ou de modifier mes choix, mes habitudes. Vous savez, notre vie n'est que le reflet de nos habitudes. Ce qu'on fait chaque jour fait ce qu'on est et où ce qu'on va devenir. Et en ce sens, c'est ce que je vous partage dans ces podcasts depuis maintenant un peu plus de 7 ans, pour donc vivre une vie plus choisie et moins subie. Car comme vous le savez, on en parle depuis maintenant longtemps, et c'est de pire en pire. On nous manipule par tous les bouts. On essaye de faire de nous ce qu'on veut, de faire de nous des hyper-consommateurs, des surconsommateurs, de nous dépouiller de notre temps, de notre argent, de notre facilité à apprendre. Tout est fait pour qu'on soit de plus en plus ignorant, de moins en moins intelligent, de moins en moins capable de réfléchir. Et donc, j'essaye de lutter un peu contre tout ça avec LeaderCast, modestement, à ma façon, en espérant que ça vous serve. Alors, avant de commencer plusieurs choses, je reviens rapidement sur l'Elite Training Symposium qui avait lieu à Nevers ce week-end, où je me suis amusé comme un fou, notamment sur mes ateliers d'analyse morpho-anatomique, où j'ai pu analyser 5 personnes durant le week-end et montrer ma codification de l'analyse morpho-anatomique. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, j'ai codifié l'analyse morpho-anatomique en 2016 au sein du tome 1 et du tome 2 de la méthode superphysique, donc avec des photos de vrais gens, des vidéos de vrais gens. Ça ne vaut pas les analyses que je fais en vrai, mais c'est une très très bonne première approche si vous pouvez pas vous déplacer à ce genre d'événement. Donc vous n'êtes pas un de mes élèves en BPJEPS ou en CQP. Je crois d'ailleurs que des dates vont arriver pour s'inscrire en CQP pour septembre. Donc n'hésitez pas à zioter. Si vous êtes intéressé, je me ferai un plaisir de vous partager tout ce que je sais sur le sujet. Et bref, donc, je me suis amusé comme un fou avec ça. A priori, ceux qui étaient présents, mes ateliers étaient complets, ont l'air de s'être régalés. Donc, c'est plutôt une bonne expérience. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qui s'est passé parce que j'y suis revenu sur mon podcast privé sur patreon.com/leadercast. Mais en tout cas, c'était vraiment cool de voir du monde, tout ça. Après, le point faible à chaque fois, c'est comme on intervient, on partage, on partage, on partage. On est toujours un peu frustré de ne pas pouvoir aller voir ce que font les autres, d'échanger plus avec les autres intervenants. J'ai une soif de questions à combler, on va dire. Du moins, comme vous le savez, les questions amènent des réponses qui appellent de nouvelles questions. C'est un peu sans fin. Et c'est la petite frustration. Mais en même temps, c'est normal, tu ne peux pas être intervenant et spectateur. Tu dois choisir et c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ceux que j'ai vus se sont régalés. Et l'année prochaine, j'espère faire encore mieux. J'aurai sans doute encore évolué dans ma pratique de l'analyse morpho-anatomique. Je la codifierai encore un petit peu mieux. Et sans doute que il y aura encore du mieux. Bref, comme j'en parlais rapidement, j'ai une rubrique privée pour aller plus loin que ces podcasts qui s'appelle patreon.com/leadercast. C'est en lien dans la description où je publie donc effectivement un podcast privé sur lequel je parle de manière plus libre, plus personnelle, de plein de sujets dont certains que vous n'imaginez même pas. Donc je suis revenu un peu plus sur Nevers cette semaine et j'ai abordé d'autres sujets. Bref, je ne vais pas en parler trop en détail. Donc ça sort tous les mercredis, parfois un petit peu avant. Ça dépend quand je suis en avance, mais au plus tard, ça sort le mercredi. Et surtout, il y a cette fameuse revue de presse où je vous mets, comme c'est le plus gros de ma journée, mes trois meilleurs liens de la semaine. On va d'ailleurs parler d'un documentaire que j'ai vu cette semaine, que je vais vous inviter à regarder, que je ne vais pas mettre dans ma revue de presse, mais qui vous donnera une idée de ce que je peux vous partager. Et qui tombe pas du ciel, hein, faut faire des recherches. C'est pas l'algorithme qui m'envoie tout ça de YouTube, hein. C'est je cherche, je cherche, je cherche. Et bref, et donc tous les dimanches, mes trois meilleurs liens de la semaine, ça peut être un article, un documentaire, des podcasts, en fonction de ce que j'écoute, de ce que je trouve super, afin de vous faire gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas de trouver du contenu. On est assommé de contenu, il y en a plus que jamais, c'est de trouver les bons contenus et de ne pas perdre son temps en écoutant des choses qui sont, je vais dire, un peu inutiles et qui nous prennent du temps de vie. Donc ça, c'est ce que je fais tous les dimanches, vous faire gagner du temps avec des super liens où vous êtes sûr d'apprendre quelque chose, vous êtes sûr que c'est passionnant. Voilà. Donc si ça vous intéresse, patreon.com/leadercast, ça coûte 5 euros par mois et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Vous pouvez même prendre un mois. Si ça vous dit, et poncez toutes les revues de presse, tous les podcasts qu'il y a eu. Bon, je pense qu'en un mois, c'est pas possible parce qu'on en est à 63 semaines. Donc 63 semaines fois 3 liens, plus les podcasts où il y a des trucs vraiment très spécifiques sur l'investissement ou autre. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, quand vous vous abonnez, vous avez accès à l'intégralité de ce qui a déjà été publié. Donc de quoi vous occuper le soir, si vous n'avez pas le temps avant, plutôt que de regarder des séries navets ou des films nuls, comme on nous en balance à crever. C'est vraiment le truc de fou. Et donc j'en profite, j'allais oublier, pour remercier Manu, mon nouveau patriote de la semaine, Manu que je connais bien, qui était venu s'entraîner au Super Zig Gym, qui a progressé un truc de fou, notamment je pense grâce au forum Super Physique. Et Manu nous a rejoint cette semaine et on est de plus en plus, donc merci encore de votre confiance et de votre intérêt surtout envers ce travail. Enfin, avant d'attaquer le sujet du jour, il y a deux autres choses dont je voulais vous parler. La première, c'est que j'ai reçu un commentaire la semaine dernière de Malit. Donc Malit, je le connais bien. Il était venu faire un coaching premium donc à Annecy. Donc c'est directement l'analyse morpho-anatomique, articulaire, construction de programme en rapport que je fais de manière individuelle sur Annecy. C'est ce qui fait aussi que vous écoutez sans doute le podcast, pas le mercredi, mais le jeudi. En ce moment, j'ai pas mal de coaching premium qui s'enchaînent, pas mal de demandes. Cette semaine, par exemple, j'en ai trois. J'ai dû en refuser deux la semaine prochaine parce que je ne suis pas dispo avec le CQP, les cours en CQP que je donne à l'INSEP, justement sur la morpho-anatomie. Donc, je suis un peu en retard, mais ce n'est pas très grave. Comme vous savez, je ne crois pas trop en retard dans la vie. Il n'y a que le bon moment. Le bon moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Malit, que je connais bien, a laissé un commentaire par rapport à ce que j'avais partagé la semaine dernière sur ce que disait Tony Parker, sur le fait qu'il n'avait pas de plan B et que c'est une des choses qu'il avait fait réussir. Du moins, c'est son analyse. Et j'aime bien cette philosophie. C'est sûr que ça fait un peu rêver, ça fait un peu du style quand on veut, on peut. Et donc, je vais lire le commentaire de Malit et renchérir un petit peu. L'histoire de ne pas avoir de plan B, j'y crois moyen quand même. Il dit dans son interview qu'il n'a jamais arrêté de faire plusieurs choses en même temps aussi pour éviter que quand sa carrière soit terminée, il n'ait plus rien. L'histoire est facile à raconter quand tu réussis. Mais quand tu mets tout en place pour quelque chose et que tu ne réfléchis pas à un plan B, l'échec fait très mal. Après, quand tu as le vrai spirit, tu penses que tu n'as pas de plan B. C'est vrai. Tu mets la tête dans le guidon et tu fais ce que tu fais. Le plus dur serait de rebondir s'il y avait échec. Car pour un Tony Parker qui n'avait pas de plan B étant jeune, il y a plusieurs jeunes qui avaient la même détermination sans plan B, mais qui n'ont pas eu la même carrière. Et cela fait de gros dégâts si la personne n'est pas assez forte pour rebondir. La détermination de ne pas avoir eu de plan est un petit facteur de la réussite. Beaucoup d'autres doivent entrer en jeu pour atteindre l'objectif final. Ah, je suis assez d'accord avec toi. En fait, ce qui est aujourd'hui, même je crois que tu as lu mon livre The Life, mais ceux qui l'ont lu comprendront ce que je vais dire de manière plus détaillée. Quand je suis avec quelqu'un, étant donné que je passe pas mal de temps à réfléchir, à remettre les choses en question, à m'introspecter, à analyser, pas que morpho-anatomiquement, mais un peu psychologiquement, du moins ce que me disent les gens, je vois les histoires que chacun se raconte. Alors, comme tu l'as dit, c'est toujours plus facile de raconter des histoires a posteriori, d'écrire l'histoire une fois que tu as réussi. Tu peux raconter n'importe quoi et il n'y a pas grand monde qui va te contredire. Mais c'est vrai que, là, par exemple, ce week-end, j'étais avec Tristan, donc Iron Human, à Nevers. Et donc, il a 10 ans de moins que moi. Et quand on se voit, on rigole bien, on est bien copains. Et donc, c'est hyper intéressant de discuter. Et je vois ses croyances, je vois où il en est dans sa vie, dans ses réflexions. Et donc, quand quelqu'un me parle, j'ai un peu cette fâcheuse tendance, qu'on parle vraiment beaucoup, pas comme ça, mais à me dire, ah, voilà ce qu'il croit, voilà ce qu'il pense devoir faire, voilà ce qu'il pense devoir être. Donc j'analyse un peu tout ça. Et d'un côté, ça me fait sourire, parce que c'est ce que j'avais expliqué dans mon livre The Leader Project. Tout est une histoire de croyances. Et c'est pour ça que le premier chapitre est vraiment consacré aux croyances, à écrire son histoire. Parce que si on ne croit pas dans quelque chose, ça ne marchera pas. Et bien sûr, y croire ne suffit pas pour que ça marche non plus. Mais c'est quand même la première étape. Hein. Si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Tu ne vas pas faire les efforts, tu vas voir que des sacrifices, tu ne vas pas voir que ça fonctionne. Bref, j'en parle pas mal dans mon livre The Leader Project pour ceux qui s'intéressent. Encore une fois, c'est mon meilleur livre. Mais c'est vrai que tout le monde ne va pas réussir, j'en ai souvent parlé. C'est pas parce que tu veux que tu peux, c'est parce que tu peux que tu veux. Fred Delavier le dit souvent. Et pour moi, ça vient du livre Facile d'Olivier Pourriol, qui est un super livre que j'en ai vraiment à lire, que j'avais mis d'ailleurs dans ma bibliographie des livres à lire dans The Life, qui est vraiment un livre que j'ai déjà relu 3-4 fois. Et qui me rappelle que quand tu essayes de forcer les choses et que c'est pas toi, c'est pas une extension de toi, ça marche pas. Mais voilà, c'est vrai que l'histoire du plan B, c'est une histoire qui fait sourire. Mais en même temps, en tant qu'être humain, on adore les histoires. Tu sais, on adore qu'on nous raconte des trucs. C'est que ça. En ce moment, j'avais dit la semaine dernière, je me suis mis à écrire un petit peu sur LinkedIn, après avoir zioté pendant au moins, je pense, 2 bonnes années, à voir des gens raconter des histoires, à dormir debout. Donc j'essaye de partager des réflexions autour des podcasts que je peux faire, que ce soit Superphysique Podcast, que ce soit Leadercast, que ce soit Les Secrets du Sport. J'essaie de faire un peu différemment et on verra jusqu'où ça marche en termes d'impact, si ça fait décoller un peu notamment mon podcast Les Secrets du Sport, qui est, je pense, vraiment un podcast référence de plus en plus. Mais c'est intéressant de voir ces histoires et de voir ce que les gens racontent en essayant de se convaincre que c'est comme ça que ça s'est passé et que c'est pour ça qu'ils ont réussi. Mais effectivement, la réussite, elle est multifactorielle et on va en reparler un petit peu après. C'est pas juste de pas avoir de plan B. Moi aussi, j'avais pas de plan B. Quand j'étais gamin, je me pensais devenir champion de force athlétique quand j'avais 17-18 ans. Et puis, je me suis niqué un genou et ensuite un pec. En un mois, c'était fini. Ensuite, je suis revenu. Je me dis, ah, les pecs, c'est bon, je vais être champion du monde de développé couché. Puis, paf, je me suis pété aussi. Et j'y croyais. Hein. Je peux te dire que toute la journée, je regardais les DVD, les trucs. C'était l'époque, pour ceux qui ont connu, de Ryan Kennelly avec son DVD, la musique, Scott Mendelson. Bref, il n'y avait pas autant de trucs que maintenant. C'était il y a 17 ans. Il y a plus de 17 ans, il y a presque 20 ans. C'était 2005, 2006, quelque chose comme ça. 2005, champion de France de force. Et donc, ça doit être 2006 où j'y croyais beaucoup. Et c'est vrai que, bon, c'est pas que j'avais un plan B, mais il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. C'est pour ça que je disais dans un podcast il y a quelques mois que parfois, on regarde un peu les sportifs de haut niveau, où on regarde un entrepreneur qui a réussi. Et si on réfléchit pas trop, on se dit, j'aimerais bien avoir cette vie-là. Vraiment, c'est ça que je voudrais avoir. Ça a l'air génial, cette vie, tout ça. Et en fait, on oublie tout ce qu'il y a autour, en fait. Quand tu es, je prends sportif de niveau, par exemple, eh ben, en fait, c'est t'entraîner 2, 3 fois par jour, c'est être tout le temps fatigué, c'est pas avoir l'énergie pour réfléchir. Peut-être, bah, tu vois, pour moi, par exemple, je ne pourrais pas écrire d'articles, je ne pourrais pas faire de podcast, je ne pourrais pas lire de livres, ou je serais mort, tu vois. J'ai déjà fait, je me suis déjà entraîné, j'en parlais avec je ne sais plus qui en podcast, je crois avec Sylvain Fréville, dans l'épisode 51 des Secrets du Sport. Si je m'en, je crois que tu es peut-être hors antenne, hein, peut-être pour ça que vous n'avez pas entendu. Et j'ai déjà essayé de m'entraîner 10 fois par semaine en kayak, plus la muscu, plus tout ça. En fait, tu fais ta séance, tu rentres, tu es un peu bien pendant 1 heure, après tu prends une douche, tu es mort, tu dors, hop, tu te réveilles, tu bosses un peu. Bah, donc je m'occupais quand même de mes élèves en coaching à distance. Et puis hop, tu repars, mais tu as le temps de rien faire d'autre, quoi. En fait, tu es rincé, rincé, rincé tout le temps. Et donc finalement, bah, j'ai bien compris que je ne voulais pas être sportif de niveau. Je souhaitais plutôt passer des bonnes journées avec. Comme je dis souvent, une bonne vie, c'est des bonnes journées. Et pour moi, ça consiste en un équilibre entre faire des choses créatives, m'occuper de mes élèves pour les aider à progresser, faire une séance ou deux de sport. Si c'est une deuxième séance, bah, c'est une petite séance rapide, peut-être la course à pied, 30-35 minutes, avec 40 minutes maxi. M'occuper du chien. Bref, plein de petits trucs qui en fait font ma journée idéale et pas qu'un seul truc. C'est pareil, si tu vois un entrepreneur, tu dis ah, j'aimerais bien être comme Elon Musk, en exagérant, le mec dit ouais, j'aimerais être comme Elon Musk, ou tu vois. Mais en fait, tu te rends pas compte que en fait, le mec, il a que des emmerdes. Tu ne vois que le sommet de l'iceberg, en fait. Et tu te rends pas compte que c'est pas. Voilà, c'est pas exactement ce que tu crois au premier abord, c'est pas la première impression. Et quand tu réfléchis, tu sais que c'est un peu différent. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec toi, Malit. C'est des histoires qu'on se raconte et donc il faut les prendre un peu comme ça. L'être humain aime bien qu'on lui raconte des histoires, aime bien se raconter des histoires, on n'est qu'histoire. Et donc à partir de là, bah, tu choisis d'y croire, d'aimer l'histoire ou pas. C'est comme quand tu lis une biographie. Là, j'ai acheté celle de LeBron James, que j'ai pas encore attaqué parce que je suis sur le bouquin sur la dopamine et j'ai pas eu le temps de beaucoup lire cette semaine, mais je suis à la fin, qui est vraiment très très bon. Je redonnerai le titre quand je l'aurai fini et sans doute qu'on en reparlera un peu plus en détail. Mais pareil, tu lis une biographie, bah, faut mettre ça dans ce carcan, dans cette boîte des histoires, et voilà, prendre ça comme une biographie romancée. Tu lis Mike Tyson, l'autobiographie de Mike Tyson, c'est un truc hyper romancé. Tu comprends bien qu'il y a plein de trucs qui ne peuvent pas être vrais. Après, il y a des trucs qui sont super à lire. Encore une fois, en fonction de tes valeurs, de qui tu veux être, de qui tu es, de ce que tu as envie de croire. Donc, c'est plutôt en ce sens que je disais ça la semaine dernière. Voilà. Mais n'oubliez pas que quand quelqu'un raconte quelque chose, là, comme mon pote Tristan, bah, c'est avec ses valeurs, s'il les a déterminées, s'il a pris le temps de les déterminer, ou juste, on va dire, ses histoires qu'il a sans trop réfléchir, parce qu'il a été éduqué comme ça ou autre. Et donc, c'est assez plaisant de voir ça. Comme j'ai presque 10 ans de plus, je vais voir son évolution et voir si ça se modifie, parce que forcément. Vous savez aussi bien que moi, quand on a 20 ans, on veut certaines choses. Quand on a 25, on veut autre chose. Quand on a 30 ans, on veut différemment. À 35, on veut autrement. Et j'imagine que petit à petit, eh ben, qu'on continue de vieillir, d'évoluer, eh ben, on veut d'autres choses aussi. À 20 ans, je ne me posais pas la question d'acheter un t-shirt ou pas. Aujourd'hui, avant d'acheter un t-shirt, je n'en achète pas. J'en achète pas, je me dis, ça n'a absolument aucun sens. Et pour l'anecdote, pour la blague, ce week-end à 9h, donc. J'avais un t-shirt un peu long, bref que. Et donc Thomas, qui nous écoute sans doute, mon influenceur préféré de training thérapie, que je recommande évidemment de suivre, qui prend un super boulot sur la kiné et sur comment on pourrait dire, la guérison, c'est pas le mot, mais bon, allez, on va dire ça comme ça, la guérison entre guillemets des différentes blessures que vous pouvez avoir par rapport au sport. Et il me dit, mais c'est quoi ce t-shirt et tout? Et je dis, bah, ce t-shirt-là. J'y pensais pas, mais je l'avais acheté en 2015, je pense. Je l'avais acheté en 2015 ou 2016, et j'avais acheté tous les trois mêmes t-shirts. Et donc, ça veut dire que j'ai des t-shirts depuis 8-9 ans. Et en y pensant, j'ai même des t-shirts depuis plus de 10 ans. Mais quand on achète des trucs bien, bah, en fait, ça bouge pas, quoi. Franchement, c'est pour ça que, encore une fois, c'est une histoire d'évolution. On ne croit pas aux mêmes histoires. Quand j'étais gamin, j'en avais parlé. Quand j'achetais un vêtement, j'ai acheté le vêtement parce qu'un tel portait ce vêtement, et je me disais. J'avais cet exemple-là des débardeurs. Pardon, je dérive un peu, mais c'est peut-être marrant. Mais quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, j'étais à fond muscu, 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 que je regardais les DVD, les mecs, ils avaient tous des débardeurs Muscle USA. Donc c'était une marque, je ne sais pas si ça existe encore. Et bon, c'est des débardeurs un peu ficelle, violet, jaune, tout ça. On doit pouvoir retrouver des vidéos de moi sur YouTube de l'époque. Sachant que je fais des vidéos depuis 2007, je crois peut-être même 2006, que, bah, à voir sur la chaîne. Bref, et donc bah, tu mets, t'achetais ça, quoi. T'achetais ça, et puis tu te prenais pour un pro, et puis tu dis, ah ben bah, lui, il a cette couleur-là, donc quand je fais les pecs, je mets cette couleur-là. Donnie James, il mettait le bleu clair, et puis l'autre, il mettait le jaune, et puis l'autre, il mettait le rouge, et donc tu t'identifiais, il met comme ça. Bon, maintenant, c'est des histoires que je me racontais, et qu'aujourd'hui, je me raconte plus du tout. C'est pas le vêtement qui fait le champion, c'est le champion qui fait le vêtement, hein, entre guillemets. Le vêtement sert à que dalle, quoi. Même si. Comme quand tu fais une activité, qu'elle soit sportive ou pas, tu adoptes souvent les codes de ton milieu pour mieux t'identifier, pour mieux te fondre, pour que ça corresponde mieux aux histoires que tu te racontes. Donc c'est marrant de voir comment nos histoires, encore une fois, façonnent qui on veut être et ce qu'on fait. Avant d'attaquer le sujet du jour, de vous partager donc, un documentaire dont je voulais vous parler, je fais un petit point rapide sur SP Training. Pareil, j'en ai pas mal parlé sur plein de petits trucs, un peu business sur le Patreon, sur le podcast Patreon. Si ça s'intéresse, je vous invite à aller écouter. On est super content, vraiment, du lancement de cette V3. Donc, comme si vous ne savez pas, l'application a été lancée en 2019 avec la V1, puis on a rapidement eu la V2, et on a mis beaucoup de temps à sortir la V3. Il y avait toute une refonte à faire, aussi bien graphique que, je veux dire, informatique, mais ce n'est pas le terme, je ne l'ai plus en tête. Et donc là, on a sorti la V3. Et vous avez dû entendre ces dernières semaines mon enthousiasme. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous devez voir mon enthousiasme avec cette application, qui est la seule à dire quoi faire à chaque séance en fonction de ce que vous avez fait par rapport à des questions que le petit chat Rudy va vous poser. Et on vous prépare plein de surprises. Bref, il y a plein de choses. Donc. Même, en tout cas, on est super content du lancement de cette V3. On voit que ça monte, ça monte, ça monte. On a évidemment beaucoup d'ambition, du moins moi j'ai beaucoup d'ambition, j'ai la même ambition et ça fait longtemps qu'un projet ne m'avait pas autant motivé qu'au lancement de Superphysique, démocratiser les bonnes connaissances, mais surtout la bonne méthodologie qui marche pour la plupart des personnes, de mon expérience pour 99% des personnes qui sont débutants, semi-débutants, intermédiaires en musculation pour progresser à chaque séance, pour pas perdre de temps. Et donc si on peut aider un maximum de monde à pas faire n'importe quoi, alors bien sûr. C'est une histoire que je me raconte parce que c'est un combat qui est perdu d'avance avec la surinformation qu'il y a et avec toutes les conneries qui peuvent circuler, vu que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et vraiment, comme je dis souvent, bah, cette application, elle est pour vous. Donc merci encore bah, de participer à son évolution, de faire vos retours, notamment sur les forums Superphysique. Vous pouvez également m'envoyer un mail via le lien contact si vous avez des suggestions, s'il y a des petits bugs, qu'on s'efforcera évidemment de corriger au plus vite. Donc, vraiment cool. Donc, c'est sur les stores, c'est sur le Play Store et sur l'App Store, SP Training. Je vous serais évidemment très reconnaissant si vous pouviez laisser une note de 5 étoiles sur 5 sur les stores, un petit commentaire en disant la vérité qu'elle est super, parce que ça aide énormément. Et plus il y aura de monde qui l'utilise, plus on pourra prendre de temps, entre guillemets, moi je pourrais travailler sur d'autres choses et plus je pourrais travailler dessus avec Pierre le développeur pour continuer à la développer. Donc, en gros, son succès dépend de vous. Mais ça, je pense que vous le saviez déjà. En tout cas, c'est vraiment un gros projet qui m'anime aujourd'hui. Je suis vraiment super content du produit qu'on a. Moi, bah, vous savez, je l'utilise à chaque séance. Je mets des captures, c'est marrant, avec mon diagramme, avec mes niveaux, tout ça. Mais ouais, vraiment cool. Donc, merci d'avance de vos retours, de vos suggestions et de vos notes sur les stores. Ça prend pas longtemps. Donc, merci d'avance. Ce serait bien que on passe au moins les 300 notes sur Apple. Et les 500 notes sur comment. Je crois qu'on n'est pas encore aux 500 notes sur le Play Store. Donc ça dépend de vous. Puis ça nous aiderait grandement à continuer à prendre du temps pour développer cette application qui est, je pense, révolutionnaire dans le milieu de la musculation. Comme me le disait encore une fois Tristan ce week-end qui lui a l'application Campus Coach. Alors, je vous partage maintenant bah, le documentaire que j'ai vu cette semaine. Donc en faisant des recherches sur du contenu qui m'intéressait, du moins que je voulais. Voilà. Des sujets qui m'intéressent, je suis tombé sur un documentaire de Bein Sport, donc c'est sur la chaîne YouTube Bein Sport, et ça s'appelle Pourquoi moi? Et donc ça suit surtout des joueurs de hand, notamment les frères Karabatic, le célèbre gardien Terry O'Meyer, ceux qui sont de ma génération doivent s'en souvenir, il passait partout, le type arrêtait tout, enfin bon, j'exagère un peu, mais dans l'histoire que je me raconte, c'est un peu ça. Il y a également d'autres sports, mais c'est surtout centré autour du hand. Et comme je connais rien au hand, je me dis bah tiens, je vais regarder ce que ça donne, un documentaire qui dure à peu près 50 minutes. Et j'ai bien aimé ce documentaire, et c'est pour ça que bah, je vous le partage. Donc c'est ce genre de lien que vous allez retrouver si vous ne tombez pas dessus dans la revue de presse. Vous ne retrouverez pas de vidéo de 5 minutes ou de podcast de 12 minutes. Ça, les trucs un peu courts, c'est pas trop mon truc et je suis plutôt pour les temps longs. Et je voulais parler avec vous de ce truc-là parce qu'ils disent pourquoi moi? Et donc, ils essayent de trouver plein d'explications à pourquoi ce sont eux qui ont réussi, pourquoi c'est ce sont. Pourquoi eux, tout simplement. Quand on voit, quand on écoute ce documentaire, on le regarde. Alors, il y a un petit bug, par contre, sur les 5 dernières minutes, il n'y a pas de son. Donc, bon, peut-être que ce sera corrigé au moment où vous l'écouterez. Mais en fait, ces gens-là, ils sont pas si différents que nous. À chaque fois que quelqu'un réussit, et c'est peut-être pour ça que j'ai jamais vraiment été fan de quelqu'un, que j'ai jamais eu cette idolâtrie, comme certains peuvent avoir, de tomber un peu dans les émotions, de pas contrôler ses émotions, hein, comme je le dis souvent, la plupart du temps, et j'avais fait un podcast avec, ça s'appelait En long, en large et en travers. Je ne sais plus comment s'appelait le podcast que j'avais fait, où justement, il y avait un extrait sur mon compte Instagram en réel, où j'expliquais que le problème de la plupart des gens, c'était qu'ils ne contrôlaient pas l'expression de leurs émotions, ils ressentaient quelque chose et ils se sentaient obligés d'y réagir. Et donc pour moi, bah, c'est une des causes de presque tout, hein. Tout est fait pour manipuler nos émotions et nous forcer à réagir à nos émotions, à réagir à nos pensées. Et bref. Si vous savez ne pas réagir et vous contrôler, bah, vous serez en forme, vous ne serez pas gros, vous dormirez bien, vous progresserez, vous évoluerez, et tout se passera bien pour vous. Sinon, bah, ça risque d'être la merde. Bref, je ne m'attarde pas dessus. Donc, ces gens-là, on regarde le documentaire et on se rend compte qu'ils ne sont pas si différents de nous. En fait, à la base, ils n'ont pas un talent particulier. Vous savez, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il y a deux bouquins que je recommande sur le sujet, c'est Le Talent Code de Daniel Coyle. Et le talent ne fait pas tout. Je l'ai prêté, donc je sais pas, je me souviens plus de l'auteur, mais deux bouquins dont on a parlé à chaque fois, j'ai fait des podcasts dessus. Le talent, c'est la répétition. Le talent, c'est la pratique d'une activité de façon délibérée, délibérée signifiant que je le fais avec, on va dire, envie de progresser en me questionnant sur ce que je suis en train de faire. Je reprends l'exemple du kayak pour moi. À chaque coup de pagaie, je mets bien le pied, j'essaye de bien planter la pagaie. De bien fixer, bref, plein de petits trucs techniques, mais chaque coup de pagaie, j'y pense, j'y pense, j'y pense. C'est rare qu'il y ait un coup de pagaie que je mette comme ça sans y penser. Alors bien sûr, plus on débute dans une activité, et plus on pense à ce qu'on fait. On dit que la réflexion empêche l'action, je dirais que la réflexion limite un peu la performance, et que plus on va progresser, plus ça devient automatique. J'ai plus besoin de me dire en musculation, ou amener la barre au développé couché, ou vraiment à contrôler, à être dans un rail, parce que ça fait tellement longtemps que j'en fais, que c'est devenu automatique. Quand ça devient automatique, et c'est à pas mettre, à pas apparenter au réflexe, parce que souvent les gens font l'amalgame en disant c'est un réflexe, c'est pas un réflexe, c'est un automatisme. Mais ouais, le talent, c'est la personne. Donc ces gens, si vous prenez le documentaire, ils sont pas plus talentueux. C'est juste que, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pratiqué une activité qu'ils aimaient. Ils s'y sont mis, ils ont adoré, ils ont été en plus bien encadrés. Donc ça, c'est l'histoire de l'environnement. Donc il y a, premier point, le travail. De l'environnement, un environnement où on est. J'ai reçu un message d'un patriote la semaine dernière, je ne cite pas le prénom, on l'appellera F, qui me disait bah, moi, mon entourage, c'est mes potes quand j'étais à l'école, et bah, ils mangent n'importe quoi, ils font pas de sport, ils font pas ci, nan, nan. Je caricature évidemment, et il disait que ça ne gênait pas. Moi, je suis convaincu de l'inverse, du moins dans l'histoire que je me raconte, c'est que quand tu côtoies des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, entre guillemets, que toi, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui par exemple toi tu veux manger sain et puis eux ils mangent n'importe quoi, et même si toi, tu ramènes ta gamelle ou qu'ils te font bien ou qu'ils te font à manger sain si t'es invité, ou si tu veux faire du sport, tu veux progresser, et puis eux en fait ils sont pas du tout là-dedans, ça a une influence. Toi tu as l'impression que consciemment ça n'a pas d'influence parce que tu es peut-être plus fort que ça, tu es peut-être plus motivé, tu as peut-être mis en place des habitudes, tu es plus discipliné pour atteindre tes objectifs, mais n'empêche qu'inconsciemment ça joue contre toi. Si tu es entouré que de gens qui font, qui font, qui font, qui font, tu vas progresser. C'est pas compliqué. Je te donne un exemple. Quand je suis au kayak avec des potes qui ont pris le même niveau que moi, c'est pas la même séance qu'on fait. T'as beau dire ça change rien, ça change rien. Non, ça change tout. Donc, si t'es avec des gens qui veulent la même chose que toi, bah, ça joue. Donc, le travail, mais un travail un peu déguisé, du style j'aime faire. L'environnement, alors ça va être tes partenaires, les gens que tu côtoies. Là, ça parle de sport, mais c'est aussi dans la vraie vie. Quand je dis dans la vraie vie, autre que le divertissement du sport, Donc là, dans le documentaire, bah, c'est les entraîneurs, c'est la famille. On voit les frères Karabatic. Bah, le père avait été en équipe nationale. Il y a le grand frère, donc Nicolas Karabatic. Et donc, on voit son frère, dont j'ai oublié le prénom. Bref, et on voit que lui, bah, il suit l'exemple du père et puis du frère. Donc, il a tout ce truc d'exemple et d'environnement, et l'entraîneur, et le bon club. Et tout ça, ça joue. Et enfin, il y a forcément une part de chance. J'en parle en introduction. Il y a une part de chance. C'est tout. Et quand on met. Quand on dit, voilà, c'est le travail, c'est l'environnement et c'est la chance, finalement, il n'y a plus ces raisons d'idolâtrer ou d'être fan. En fait, c'est juste des gens qui sont tombés sur une activité qui leur plaisait. Il y a 2 semaines, j'ai vu mon comptable, ceux qui sont à leur compte, ils savent que c'est leur un peu des bilans comptables, et il me disait, toi, tu as de la chance parce que tu as une passion, quoi. Il dit, tout ce que tu fais, il dit, c'est une passion. Et lui, pour qui ça marche très bien, hein, depuis longtemps, depuis 10-15 ans, me dit, bah, moi, il me disait, moi je continue de travailler parce qu'en fait, sinon j'ai rien à faire, j'ai pas de passion comme toi, alors que toi, tout ce que tu fais, eh bah, tout s'imbrique bien, tout va. Donc ça, il y a aussi une histoire de chance. Et donc quand on remet tout ça en parallèle, on met le travail, donc trouver quelque chose qu'on aime et le faire sans avoir l'impression de travailler, entre guillemets, sans avoir l'impression que ce soit un labeur, que ce soit difficile, mais on va revenir sur cette notion de difficile, de souffrance après, une histoire d'environnement. Bah là, pareil, c'est un peu le coup de chance. Tu tombes sur le bon entraîneur, les bonnes personnes. Je me souviens quand c'était de l'athlé, mon deuxième entraîneur, ma première entraîneuse était super, celle qui m'avait un peu détecté quand j'étais gamin. Et mon deuxième entraîneur, bah, c'était super. Et quand j'ai changé d'entraîneur, le troisième, bah là, ça n'allait plus du tout. Les entraînements n'étaient pas adaptés. C'était nimp, nimp de chez nimp. Avec le recul, c'était vraiment un massacre. Mais je pense que ça a bien contribué au fait que je me blesse et que je ne puisse plus courir à un moment. J'avais 2 mégas d'anténopathie aux ischios, on dirait je ne sais pas combien de temps. Il y avait trop de volume, il y avait tout qui n'allait pas. Donc, et enfin, la chance. Donc, bah, tu as du bol ou tu n'as pas de bol, quoi. Tu as l'hérédité, mais tu as aussi bah, tout ça. Tu tombes sur les bonnes personnes, tu tombes sur l'activité qui te plaît, tu es tiré vers le haut, tu es dans le bon concours, tout ça. Mais en fait, tu n'as plus de raison d'être fan. Tu vois, parce qu'en fait, tu comprends les choses. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est juste du travail, de l'environnement, du temps, de la chance. C'est que ça. C'est pour ça que quand quelqu'un réussit, dans une activité, je me dis pas, waouh, putain, incroyable, comment il a fait? Je sais comment il a fait. C'est ça le plan. Et c'est pas plus compliqué. Ensuite, évidemment, il y a aussi cette histoire de, aujourd'hui, j'en parlais avec, je sais plus avec qui j'en parlais. J'ai oublié avec qui j'en parlais, mais bref. Ah si, j'en parlais avec un jeune, je sais pas son prénom, on va l'appeler L, qui est venu pour un coaching premium. C'est donc hier au Super Physique Gym et qui me disait je lui demandais ce qu'il faisait et donc il est monteur et je lui disais bah ouais, ah ouais il monte des trucs donc il m'expliquait bah il monte des trucs à la télé donc du montage vidéo tout ça et je lui disais bah et là en ce moment sur quoi t'as il m'a dit bah, justement je cherche du travail et je lui dis bah, est-ce que c'est pas du réseau est-ce que c'est pas comme dans tout comme être préparateur physique j'en parlais à 9h sur une intervention sur un peu une intervention un peu business sur comment vivre du coaching je résume ça comme ça. Et où on me posait la question, ouais, moi j'aimerais entraîner des athlètes de haut niveau. Et donc bah, j'expliquais un peu mon expérience sur le sujet, comparativement aux gens lambda. Je ne vais pas m'étaler dans ce podcast. Mais en fait, hier, elle m'en parlait. Donc elle, la première lettre de son prénom, il me disait, bah oui, c'est qu'une histoire de réseau. C'est une histoire de réseau pour tout. Si vous travaillez, vous êtes dans un bon environnement, un bon entraîneur, tout ça, vous avez de la chance, voilà, vous progressez, tout ça. Si à un moment, vous ne vous faites pas connaître, bah, c'est mort, vous pouvez passer à côté de tout. Et des fois, ça se joue à rien. Vous voyez bien, des fois, moi, je peux le voir. J'écris à quelqu'un pour un podcast, la personne me snob, me répond pas, je relance. Là, il y a une fille avec qui je discute, avec qui on m'avait mis en relation, avec qui on devait faire un podcast, elle m'avait pas répondu, j'ai relancé, elle me répondait pas, j'ai relancé encore une fois. Et là, ça se fait, ça va normalement se faire. Donc, c'est assez incroyable. Incroyable, c'est incroyable, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Si vous ne faites pas connaître, si vous ne faites pas connaître vos talents, si vous ne faites pas ce qu'il faut, et c'est pour ça que régulièrement, que ce soit les podcasts super physiques, les secrets du sport ou même Leadercast, parfois je vois des gens qui peuvent me reprocher, bah, je parle de ce que je fais. Si je ne parle pas de ce que je fais, si je ne fais pas connaître ce que je fais, bah, comment vous pouvez savoir que je fais des choses? Comment vous pouvez le savoir? Parce que aujourd'hui, c'est pas une guerre, mais chacun fait sa propre publicité par rapport aux histoires qu'il croit, par rapport à qui il est, du moins à qui il pense être. Et donc, tu es obligé. Et c'est pareil dans le sport, quand vous verrez le documentaire, si vous le regardez, c'est se faire connaître. Je me souviens quand j'étais gamin, mon frère il jouait au foot. Et donc, bah, il jouait au club de la ville. Puis à un moment, il y avait des sélections pour le Challenge Thuram. Donc, Lilian Thuram, pour ceux qui ont connu, champion du monde 98. Arrière droit, si je ne dis pas de conneries. Latéral droit. Et bref, et donc, bah, il a été passé les détections. Et donc, il était plutôt dans le frais. Donc, il avait été pris dans l'équipe du district ou du département du Challenge Thuram. Je ne sais plus comment ça fonctionnait. Mais ça, si tu n'y vas pas, bah, en fait, si tu n'as pas aux détections, bah, tu n'es pas pris, quoi. Donc, il y a aussi cette notion de se faire connaître. Et aujourd'hui, se faire connaître. Quel que soit le. Si c'est le sport, bah, c'est aller au bon endroit, se faire voir dans les compétitions, tout ça. Si c'est dans l'entrepreneuriat ou dans le podcast, bah, c'est appliquer le bouquin Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Carnegie, pardon. À chaque fois, on me dit là que je fais la faute. Carnegie, qui est un super bouquin que j'ai relu plein de fois et que je conseille à tout le monde. C'est appliquer ça partout, 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 partout. Au début, ça fait mal au cœur. On se dit, mais non. Et puis après, ça devient normal. De se concentrer, entre guillemets, sur les bons côtés de chacun et pas sur ses défauts, qui ne sont pas vraiment des défauts, qui sont qui il est par rapport à son éducation, son hérédité, etc. etc. Ensuite, pourquoi ces gens réussissent, vous allez voir dans le documentaire aussi, c'est qu'ils ne sont pas dans l'attente. Ils n'attendent pas que ça tombe du ciel. Ils sont proactifs. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans la réaction. C'est réagir, réagir, réagir. C'est pas une question de réagir, la vie, c'est une question d'agir. C'est une question d'être proactif. Je vois plein de personnes. J'en connais encore, qui des fois ont des douleurs et disent bah, j'attends que ça passe. Quand tu as 20 ans, ça passe tout seul. Quand tu as 25 ans, ça passe tout seul. Quand tu as 35 ou 40 ans et plus, ça passe pas tout seul. Il faut te prendre en main, il faut surtout pas t'arrêter, il faut progresser. Il faut sortir les doigts. La fois, j'ai un copain qui était chez moi, il s'est mal au dos en portant ce sacré Belzébuth, ce chien diabolique. Et bah, je lui dis tiens, prends le bouquin d'anatomie, regarde. Tiens, on peut regarder si tu veux, moi je peux regarder avec toi, voilà, ce que je ferai à ta place, tout ça. Et en fait, il était dans l'attente. Il attendait que ça passe. Ensuite, il était voir un ostéo 10 jours après. Il attendait le truc. Or, tu peux pas réussir comme ça. Tu peux pas. Tu peux pas. Tous ceux qui réussissent, quel que soit le domaine, ils sont proactifs. Ils vont chercher les choses. Ils n'attendent pas qu'on s'intéresse à eux. Ils vont provoquer de l'intérêt. Et pour ça, ben, c'est encore une fois appliquer. C'est comme tu disais à l'instant. C'est. Se mettre en avant, plus ou moins, c'est pas facile aujourd'hui avec les réseaux, mais il n'y a peut-être même pas besoin des réseaux, il suffit juste de se déplacer dans certains endroits ou d'utiliser les bons réseaux. Comme je disais la dernière fois, je me suis mis sur LinkedIn parce que c'est le seul réseau social où l'écriture a encore de la valeur. Moi, j'adore écrire, je suis moins vidéo, notamment sur Insta où il faut faire des beaux montages, tout ça, ça me plaît pas trop. J'en fais encore sur YouTube parce que je fais des vidéos d'analyse, donc ça me régale. Et là, j'en ai vu quelques-uns sur le forum Superphysique. Que je vais pouvoir faire en vidéo et vous partager ça. Mais ouais, c'est être proactif, une démarche proactive. Et là, vous verrez dans le documentaire, pareil, les gars sont proactifs, tu vois, ils y vont, ils y vont, ils y vont. Je me souviens quand j'étais gamin, je faisais de la force, j'avais écrit directement à l'entraîneur national à l'époque, qui était Rémi Prenier, pour savoir qu'Emmanuel Lejar, qui est une figure aussi du milieu de la force, m'avait dit Ah, bah, t'étais champion de France, peut-être écris au sélectionneur pour voir si tu peux pas faire les stages avec eux. Il ne m'avait pas répondu, j'avais pas le niveau. Mais j'étais dans cette démarche de proactif, ne pas hésiter à demander, 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 à se mettre en relation, à poser des questions aux gens. Encore une fois, tout est bien expliqué dans le bouquin, comment se faire des amis, pour être justement dans cette proaction. Il vous arrive quelque chose, prenez le taureau par les cornes. Quand on est gamin, c'est un des trucs qu'on ne nous apprend pas, je pense, dans la vie, que moi, on ne m'avait pas appris, c'est quand tu es dans la merde, tu peux compter que sur toi. Alors bien sûr, tu as des amis, tu as de la famille qui vont un peu t'aider, mais la vérité, c'est que c'est toi. Et personne ne va te prendre par la main et dire, tiens, voilà ce que tu dois faire, pas à pas, tous les jours. Pour devenir riche, personne ne va te prendre par la main pour dire voilà comment tu dois pouvoir mener à bien ton projet ou comment tu vas pouvoir progresser. Oui, tu peux, voilà, tu prends un coaching, voilà, jusqu'à un certain niveau. Mais pour atteindre ton 90 ou 100%, moi je pense qu'un coaching, ça peut amener jusqu'à 80-85%. Bon, pour moi, après, il y a des choses, tu es obligé de les faire par toi-même et d'apprendre à te connaître, et quel que soit le domaine. Ou alors, bah, il faut taper sur des coachs encore plus élevés, notamment. Dans le business ou dans les réseaux d'entrepreneurs ou autres, si on parle de ça. Mais tu dois être proactif. En même temps, il faut avoir, comme j'en avais parlé dans le bouquin, je ne sais plus comment il s'appelait, il était vachement bien, je l'ai prêté et je ne sais plus à qui je l'ai prêté. C'est le bouquin de Carol Dweck sur l'état d'esprit. Tout à l'heure, on parlait des histoires, de ne pas avoir de plan B, tout ça. Ils en parlent dans le documentaire, donc ça m'a fait sourire, mais c'est pareil. C'est qu'est-ce que tu penses qu'il est possible de faire. Dans le bouquin, ils opposent, je crois qu'il s'appelle Mindset. Non, il ne s'appelle pas Mindset. Bon, bref, Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais je crois que c'est Mindset, mais Carol Dweck. Donc Dweck. Super bouquin. Je l'ai mis également en bibliographie de mon livre The Life. C'est un bouquin qui m'a pas mal marqué. Et donc, la fille distingue deux catégories de personnes. Des personnes qui pensent que elles sont comme elles sont et qu'elles peuvent rien faire, qu'elles peuvent pas évoluer. C'est comme ça. Et d'autres qui pensent, comme je pense, et comme j'essaye de transmettre à toutes les personnes que je coach, c'est que y a toujours moyen d'évoluer. On peut toujours gagner, gagner, gagner. Alors parfois, c'est des petits progrès, mais c'est l'état d'esprit de développement versus l'état d'esprit fixe. Tu peux toujours gagner quelque chose, tu peux toujours améliorer un truc, améliorer ta technique, améliorer ta façon d'écrire, améliorer ta façon de faire des vidéos. Tu peux toujours gagner ça. Et ça, pareil, tous les champions, et pas qu'en sport, mais voilà, dans tout, pensent qu'ils peuvent améliorer les choses, pensent qu'ils peuvent évoluer, pensent qu'ils peuvent apprendre les choses. Tu parles pas anglais? Tu peux apprendre l'anglais. C'est pas, tu peux l'apprendre si tu as envie. Si c'est un truc important pour toi, tu vas l'apprendre. C'est pas parce que tu sais pas que tu vas pas savoir. Mais ça, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit que tu. Tu vois, si tu y penses, je sais pas comment. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là. Donc, je sais pas comment c'est pour certains d'entre vous, peut-être qu'ils n'ont pas, qui disent bah non, mais je suis comme ça. Et puis voilà, je suis comme ça. Qui acceptent d'être comme ils sont. Et peut-être parce que ça leur va. J'ai un pote qui disait souvent on a aussi en partie ce qu'on mérite. Bien sûr, la vie, c'est pas qu'une histoire de mérite. C'est une grosse méritocratie. Mais quand ta vie ne te convient pas, bah souvent tu fais des choses pour en changer. Mais ça marche sur cette histoire d'état d'esprit, de mindset. Et enfin, il y a un gros sujet pour moi que je vois de plus en plus. Souvent, quand vous savez, dans cette vie, j'ai l'impression que tout est fait pour. On est plein de petits plaisirs, vous savez, voilà, les notifications, le sucre, on nous met des séries bidons, tous des trucs faciles, en fait, qui ne demandent pas d'effort et qui nous procurent du plaisir, qui nous font sécréter de la dopamine, petite dose de dopamine, tiens, la petite dose de drogue, la drogue, la drogue, la drogue. Tout est fait pour qu'on soit des petites doses de drogue. Et en fait, je l'avais expliqué la semaine dernière, ça fait des années que je l'explique, mais avec d'autres mots, puisque je m'améliore, on va dire, dans ma réflexion, dans ma pédagogie. On va espérer, en tout cas, que fallait pas viser le plaisir dans la vie. Parce que si tu vises que le plaisir, en fait, tu peux jamais faire quelque chose de vraiment important, de vraiment grand, de vraiment ambitieux. En fait, tout est conditionné. Et il en parlait pas mal déjà dans son bouquin, Mark Manson, L'art de s'en foutre. C'est jusqu'où es-tu prêt à souffrir pour atteindre tes objectifs? Et dans le bouquin sur la dopamine, la fille en parle aussi, peut-être qu'on en parlera plus en détail quand j'aurai fini le bouquin, mais c'est jusqu'où tu es prêt à souffrir, qu'est-ce que tu es prêt à tolérer pour avoir du plaisir? Et si on regarde la plupart des sportifs, la plupart des gens qui réussissent, encore une fois, tu vois que le sommet de l'iceberg, tu vois les belles photos, tu vois les belles vidéos, des fois tu vois un petit truc comme quoi ils souffrent, mais tu dis, ouais, tu te dis, ouais, c'est connerie, tout ça. Mais en fait, ce n'est que ça. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que à force de rechercher ce surconfort, ce surconfort, ce surconfort, et de pas souffrir, alors bien sûr, la souffrance, on va dire qu'on choisit de s'infliger, c'est moins fort que la souffrance qu'on subit, ou que la souffrance qu'on s'imagine subir. Je rappelle que quand on était gamin avec la team Superphysique, les gars de la team, on disait, on a une vie de merde. On n'avait pas vraiment une vie de merde, mais on s'en convainquait, on se racontait cette histoire, et ça nous donnait des ailes, bien avant les boissons tout tripoux là. Et donc, mais c'est ça, c'est à force de fuir la souffrance, le fait d'avoir mal, tout ça, on n'est plus capable de souffrir. Et donc, tous les plaisirs qu'on a, en fait, c'est que des petits plaisirs, des petits plaisirs, des petits plaisirs. Or, quand tu te fais, entre guillemets, du mal, mais c'est pas faire du mal. Ce matin, je repense à ma séance de kayak, j'ai forcé comme un fou, putain, j'étais bien après, j'étais content, j'avais une sorte d'épanouissement. Or, si on n'est pas prêt à souffrir, je pense que. Et souffrir, c'est pas le bon mot. Si on n'est pas prêt à se donner les moyens de ses ambitions, ou si on n'a pas d'ambition et qu'on ne veut pas se donner les moyens, en fait, on n'aura jamais ce vrai plaisir, ce vrai bonheur, cet épanouissement. Et on le voit bien. On se dit pourquoi eux réussissent. J'aime bien le bouquin aussi, Pourquoi eux, les secrets de leur ascension, de je ne sais plus qui, mais qu'on m'avait offert. Un gars qui avait suivi la formation Superphysique sur méthodesp.rudycoya.com m'avait envoyé le bouquin, et je l'ai toujours, c'est vraiment un super bouquin que j'ai relu plusieurs fois aussi. Et expliquez bien ça, pourquoi eux? Parce qu'ils sont capables de supporter beaucoup plus. Alors bien sûr, pour supporter la douleur, on y va progressivement. Au début, quand tu n'as jamais fait de sport, et je le vois avec les gens que j'ai en coaching, au début, bah, ils estiment que là, ils sont à fond. Ils se disent, ah là, 10 sur 10, là, c'est 10 sur 10, je suis à fond. Puis progressivement, le 10 sur 10, il devient un 9, puis un 8, puis un 7, un 6. Et à un moment, au bout de quelques mois, voire un an, bah, le 10 sur 10, en fait, c'est un 5 sur 10. Donc progressivement, on se. De toute façon, toute une histoire, entre guillemets, de se de désensibiliser son système nerveux. Je vais dire ça comme ça. Et bah, une fois que tu as désensibilisé ton système nerveux, et ça se peut désensibiliser vraiment énormément, et ben en fait, tu arrives à tolérer plus, et comme tu tolères plus, et ben après, j'ai envie de dire, je fais une grosse hypothèse, mais je vois des choses un peu comme ça, tu sécrètes plus d'endorphines, et donc tu as plus de bonheur, tu as plus de plaisir, tu as plus de tout. Alors que, en fait, nous, dans cette société, le confort, le confort, le confort, il fait froid, ouh là là, je sors pas, il pleut, ouh là là, je sors pas, ouh là, une bonne série, super, bah, au lieu de marcher un peu, je regarde une série. Au lieu de forcer, d'avoir d'objectifs, je vais pas forcer, tout ça. En fait, c'était. Pour moi, ça revient à une vie, en fait, qui a pas trop de sens, quoi. Et qui a du moins dans ma. Moi, je pense que l'être humain, il a toujours ce truc au fond de lui de progresser, de faire quelque chose d'utile, d'évoluer. Il veut évoluer. Et donc, on nous pousse à refuser toute douleur. Faut surtout pas souffrir. Faut surtout pas avoir faim. Faut surtout rien faire. Surtout rien faire. Et si tu fais rien, ben en fait, tu acceptes de jouer le jeu où en fait tu deviens de moins en moins apte à quoi que ce soit, de plus en plus con. On en revient avec cette histoire d'IA dont je parlais la semaine dernière. Tu deviens de moins en moins. Alors que si tu mets de la souffrance, entre guillemets, si tu acceptes des fois d'avoir faim, c'est pas grave d'avoir faim, ou si tu acceptes de forcer comme un fou quelque part, ou je me souviens quand on faisait de l'électrostimulation avec les gars en 2007, 2008, tout ça, quand on faisait vraiment nos tests à fond, on le mettait à fond et on avait mal, vraiment, c'était des douleurs insupportables, hein, vraiment. Je me souviens, on mettait des chaussettes des fois dans la bouche pour serrer, pour pas se péter les dents, tellement ça faisait mal, mais on faisait nos tests. Et voilà, et on était là, on souffrait. C'est un peu pareil avec l'histoire de bain froid, tout ça. Alors bien sûr, c'est pas la même douleur, c'est pas la même résilience. Quand tu choisis de faire quelque chose, c'est un choix. C'est pas comme si tu subissais. Mais malgré tout, ça t'aide à acquérir, ou du moins à garder, cette capacité, cette tolérance à la douleur qui elle-même va te déclencher des sécrétions d'endorphine, des sécrétions de dopamine, qui va t'amener ce bonheur, ce plaisir. En un sens, c'est pour ça que la question à se poser, c'est pas. Et je dis souvent, quand on me dit, quelle est la limite en musculation? J'ai la limite, c'est jusqu'où tu es prêt à aller pour progresser. Est-ce que tu es prêt à pas sortir? Au bout d'un moment, est-ce que tu es prêt à pas sortir le soir, à te coucher tous les jours à la même heure, à suivre ta diète, à penser à l'entraînement, à le visualiser, à le préparer, à quand tu es à la salle, tu y vas à fond, tu es dedans, tu n'es pas sur ton téléphone, tout ça. Est-ce que tu es prêt à ça ou pas? Et souvent, c'est ça la limite, c'est qu'il y a des choses, t'es pas prêt à souffrir, en fait. Tu n'es pas prêt. En fait, tu vois des sacrifices et tu vois plus l'épanouissement, la pratique délibérée, le travail qui te fait oublier le travail dans le flow, quoi. T'es dans le truc, tu penses pas au temps qui passe, tout ça. Ce matin, je faisais ma séance. Après la première série, je dis, putain, ça va être dur. Et en fait, les autres séries sont passées. Je les ai même pas vues passer, quoi. Et c'est des efforts de 9-10 minutes à fond. Ça passe, en fait, tu penses pas. Et c'est normal. Je peux donner un ordre d'idée, pareil, un autre truc. Souvent, allez, je dis des conneries, mais pour imaginer un peu. Avant, j'étais habitué à faire 12 km en moyenne par séance. Et puis, quand je vais au Gros du Roi m'entraîner, le tour, il fait minimum 15. Donc, tu fais minimum 15. Et quand j'étais retourné au Gros du Roi m'entraîner un peu, je faisais la boucle de 15. Bah forcément, putain, j'étais mort. J'ai dit, putain, mais c'est hyper dur. J'étais mort. Et donc, quand je suis rentré du Gros du Roi, j'avais été un peu cet hiver, bah, je me disais, bah voilà, maintenant, tu vas faire minimum 14-15 km quand tu fais des séances avec Belette. Même si le tour fait 12, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Et bah, quand je retourne au Gros du Roi, 15 km maintenant, c'est rien. Franchement, c'est pas. Mais ça a mis des années. Au début, j'ai commencé, je faisais des séances on faisait des séances de 8 km, je me souviens très bien. Ensuite, on a fait 10, on a beaucoup fait 10, après, on faisait 12. Puis là, j'étais resté moins longtemps à 12. Et puis, en fait, là, je suis monté un peu sur mon volume. Mais ça se fait avec le temps. Et parfois, si tu fais, t'imposes une trop grande souffrance, eh ben, t'y arrives pas, quoi. Tu fais tout pour pas y aller inconsciemment. C'est non, non, non. Donc c'est pour ça que c'est pourquoi eux dans le documentaire, bah pour tout ça en fait, le travail, la chance, l'environnement, être proactif, penser qu'on peut y arriver, qu'on peut se développer, qu'on peut apprendre, que c'est pas figé, et surtout on est prêt à tolérer en fait, on est prêt à se dire Voilà, on dit il faut souffrir pour être beau, bah, il faut souffrir pour réussir, quoi, quel que soit le domaine, quoi. Et en fait, on se marre et tout de ces phrases-là, mais c'est assez vrai. Alors, souffrir pour être beau, il y a une grosse part de génétique, hein, on ne se dit pas la gueule qu'on a ou quoi, mais à part la gueule, pour tout le reste, même si voilà, on sera pas tous Monsieur Olympia, classique physique ou quoi, on n'empêche que voilà, c'est assez vrai, quoi. Si t'es pas prêt à souffrir, bah, t'auras rien dans la vie, quoi. T'auras que dalle, quoi. Ça, c'est à moins que t'aies bien hérité, voilà. Mais même si t'hérites, après, t'auras pas tout cet épanouissement qui me tient fortement à cœur et qui, je pense, est le garant d'une bonne vie, selon ma définition. Voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Donc, le documentaire sur la chaîne Bein Sport, c'est Pourquoi moi? Donc, c'est avec les frères Karabatic et d'autres sportifs. C'est assez intéressant. Si vous êtes friand de ce genre de lien, je rappelle que vous pouvez en retrouver plein sur patreon.com/leadercast. C'est en lien dans la description. C'est tous les dimanches matin, en plus du podcast privé, tous les mercredis. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou à m'envoyer un message via le lien contact dans la description. Tous les livres sont également liés dans la description si vous souhaitez aller plus loin avec mes conseils. C'est beaucoup plus structuré que ces podcasts. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et puis, je compte sur vous pour les commentaires sur SP Training, notamment sur les stores. Petite note de 5 étoiles sur 5. Ça nous aidera grandement et surtout, ça vous aidera aussi grandement. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.